Bonjour à tous. Si vous êtes déjà rendu à Paris, vous avez certainement emprunté le métro et donc fait connaissance avec ce monde souterrain si particulier et si typique de la capitale française. J'aimerais aujourd'hui vous parler un petit peu justement du métro très brièvement, mais surtout du futur métro en préparation pour le Grand Paris. Et donc j'aimerais revenir aussi un petit peu sur cette notion du Grand Paris. Pour commencer, je vous donne quelques informations générales et quelques chiffres concernant justement le réseau du métro actuel. Donc, la première ligne de métro à Paris a été construite en 1900 pour l'exposition universelle et ce réseau s'est développé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50-70, le réseau est resté plus ou moins tel quel. C'était la période où l'on donnait la priorité aux voitures et donc on a un petit peu oublié de développer le réseau du métro. Et c'est seulement à la fin des années 70, avec les crises pétrolières, qu'on a songé à prolonger certaines lignes de métro au-delà du périphérique parisien. À la fin du XXe siècle, une nouvelle ligne a été mise en route, c'est la ligne 14, peut-être que vous avez eu l'occasion de la prendre, c'est la ligne automatisée, et je sais que systématiquement, il faut se mettre en début ou en queue de tram, de rame de métro pour faire plaisir aux enfants et pour avoir la vue sur les rails. Alors, aujourd'hui, on compte à Paris 16 lignes de métro, elles parcourent 220 kilomètres et c'est environ 6 millions de voyageurs qui utilisent le métro chaque jour. Le réseau du métro est combiné avec d'autres moyens de transport en commun. Il faut signaler donc le RER qui est un réseau régional, mais également les trains de banlieue qui participent à ces transports en commun pour les habitants un peu plus éloignés. Depuis aussi les années 2000 ont été mises en place plusieurs lignes de tram, il en existe 9 au total, et bien évidemment il ne faut pas oublier le réseau de bus très dense. J'ai eu du mal à trouver des chiffres sur les bus puisqu'il est difficile de déterminer quel bus circule vraiment dans Paris, quel bus circule vraiment en banlieue. Je ne vous donnerai donc aucun chiffre aujourd'hui, mais ils sont bien évidemment très nombreux. Alors, maintenant, j'aimerais revenir sur ce projet du Grand Paris. C'est un immense chantier, qui va permettre la construction de nouvelles lignes de métro qui seront prioritaires pour desservir les communes autour de Paris. Ce projet a connu plusieurs étapes et j'aimerais détailler avec vous un petit peu aujourd'hui les différentes étapes de sa conception, puisqu'il en est juste à la première étape de sa réalisation. Donc, dès la fin des années 90, sont arrivés sur la table plusieurs projets pour essayer de simplifier les trajets des Parisiens et surtout des trajets entre les banlieues. Le réseau des transports en commun parisiens est conçu de la manière suivante, un petit peu comme une toile d'araignée dans laquelle le centre de Paris est au centre de cette toile d'araignée. C'est-à-dire que quand un voyageur vient de la banlieue ouest et qu'il veut se rendre dans la banlieue nord de Paris, il est obligé de repasser par le centre de la capitale. Et c'est pour ça que de nombreux voyageurs qui en fait ont besoin de circuler de la périphérie de la ville vers une autre périphérie sont obligés de passer par le centre de la capitale et bien évidemment cela implique un alourdissement inutile des transports à l'intérieur de la ville. À cette époque, dans les années 90, à la fin des années 90, on a envisagé la réalisation d'un tram qu'on appelle donc le tram de la Petite Couronne, qui doit faire le tour de la ville. Et également, dès cette époque, on a aussi envisagé de prolonger certaines lignes de métro déjà existantes. Et on a aussi prévu d'élargir le réseau de bus en le dotant de davantage de voies réservées pour faciliter la circulation justement de ces autobus. Cependant, le point vraiment important de départ de ce projet Grand Paris date du début des années 2000, au moment où justement, au sein de la RATP, vient l'idée d'un métro autour de Paris, un métro donc qui serait situé à 1 km à l'extérieur de la ville et qui relierait toutes les lignes de métro actuelles de Paris. Alors, ici, je me permets de rappeler un petit peu la situation de Paris qui est assez spéciale par rapport à d'autres capitales européennes. Paris est une ville fermée, dont les frontières ne peuvent plus s'étendre. Et donc, à l'origine, le réseau de transport a été conçu uniquement justement pour cette ville de Paris. Et les plus gros problèmes qu'on rencontre sont les problèmes de connexion entre les banlieues et entre les banlieues et la capitale. Il est toujours très difficile de faire sortir un bus, un métro, un tram du périphérique à l'extérieur de ces frontières fermées. Et donc, ce serait c'est l'avantage de ce projet de métro qui est situé à l'extérieur de la ville et qui relierait toutes les lignes actuelles du métro. Le problème principal rencontré donc au début des années 2000, c'est que la région a de son côté à l'époque d'autres projets qui ont été déjà lancés. Et dans ces projets, il y a justement l'idée du tram de la Petite Couronne qui est en train de se concrétiser. Aussi la concrétisation d'extension des lignes de métro existantes. Et enfin, la mise en place de nouvelles lignes de train de banlieue. Donc la région a déjà prévu ces projets-là, elle a déjà investi de l'argent dans ces projets, et donc pour elle, il est difficile d'adhérer au projet de la RATP. Cependant, cette idée d'un métro du Grand Paris est soutenue par les élus des communes périphériques, et surtout, à partir de 2008-2009, il reçoit le soutien de l'État. À ce moment-là, on présente ce projet concret du Grand Paris, qui n'est pas seulement un projet qui cherche à régler la question des transports, mais qui est bien évidemment un projet général d'urbanisme pour le développement de toute la région de Paris et autour de Paris. À ce moment-là, en 2008, est nommé un secrétaire d'État dont la mission est justement le développement de la région capitale. À partir du moment où ce secrétaire d'État prend ses fonctions, on va commencer à travailler concrètement pour essayer de enfin combiner et d'unifier tous les efforts pour arriver à obtenir un plan concret et coordonné. Après des décennies où la voiture a été le seul transport favorisé dans la capitale, il est décidé, à la fin des années, disons 2008-2009, que l'on va porter l'accent principalement sur les transports en commun et porter l'accent justement sur le développement des transports de ce Grand Paris. Donc le secrétaire d'État est chargé de coordonner et d'élaborer un projet d'ensemble. Va suivre à ce moment-là une large période de concertation intense avec tous les acteurs qui sont concernés et croyez-moi, ces acteurs sont nombreux puisque sont concernés la ville de Paris, mais également la région, les communes périphériques, les départements autour de Paris et bien évidemment l'État. À cela, il faut ajouter toutes les sociétés de transport en charge qui doivent assurer ce transport, à savoir la RATP, mais également la SNCF et d'autres filiales qui sont des entreprises publiques et qui sont chargées de telle ou telle partie du réseau. Finalement, au mois de janvier 2011, un accord est signé entre la région et l'État. Cet accord va permettre d'établir les tracés des futures lignes de métro. Vont pouvoir également être prévues de nouvelles gares. Et on va même s'entendre sur le type de rames de métro qui vont circuler dans ce Grand Paris. Au moment de la nouvelle élection présidentielle en 2012, le risque de l'alternance, on avait peur que ce projet de Grand Paris soit ralenti, voire même rejeté. Mais finalement, le projet est confirmé par l'État et par par le nouveau gouvernement. Il faut dire que même si les élections présidentielles ont eu lieu, beaucoup d'acteurs sont toujours en place dans les régions, dans les communes, dans les départements. Cet accord donc est confirmé et les nouvelles équipes vont même procéder à une réévaluation des coûts. Les coûts vont être évalués d'ailleurs à la hausse, puisqu'on va mieux prendre en compte les contraintes techniques de ce grand projet. C'est à cette occasion également que sera fixé un nouveau calendrier qui prend mieux en compte les contraintes techniques, financières de tout le projet. Et finalement, dernièrement, on est passé à la phase active puisqu'on est rentré dans l'étape de construction des premières gares qui doivent accueillir ce futur métro du Grand Paris. Je vous remercie.